Prédication ce matin, c'est dans le livre de Josué. On continue notre périple à travers le livre de Josué. Le titre du message ce matin, c'est « Surveille, sois attentif et prie ». Donc, c'est Josué 9 que nous lirons, les versets 1 à 15. Josué 9. Versets 1 à 15. Quand ils l'apprirent, tous les rois de l'autre côté du Jourdain, de la montagne, de la Shephéla et de toute la côte de la Grande Mer, du côté du Liban, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phérisiens, les Éviens et les Yébousiens, se coalisèrent d'un commun accord pour combattre Josué et Israël. Les habitants de Gabaon apprirent aussi comment Josué avait traité Jéricho et Haï. Ils eurent recours, eux aussi, à une ruse. Ils partirent comme en délégation, en prenant des sacs usés pour leurs ânes et des outres à vin usés, déchirés et rapiécés. Ils avaient aux pieds de vieilles sandales usées et recousues, et sur le dos de vieux vêtements usés, tout le pain dont ils avaient fait provision était sec et en miettes. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal et lui dirent ainsi qu'aux hommes d'Israël, « Nous arrivons d'un pays lointain. À présent, concluez une alliance avec nous. » Mais les hommes d'Israël objectèrent à l'interlocuteur, « Et viens, peut-être habites-tu près de nous? Comment alors conclurai-je une alliance avec toi? » Ils dirent alors à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Josué leur demanda, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous? » Ils lui répondirent, « Tes serviteurs arrivent d'un pays très lointain, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte et de tout ce qu'il a fait aux deux rois des Amoréens en Transjordanie, Sihon, roi de Écon, et Og, roi de Bazan, qui habitait à Achtatot. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez des provisions de route et aller à leur rencontre. Vous leur direz, nous sommes vos serviteurs. À présent, concluez une alliance avec nous. Voici notre pain. Il était chaud quand nous l'avons emporté de nos maisons comme provision de route, le jour où nous sommes partis pour aller vers vous. Maintenant, le voici tout sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avions remplis neuves, les voici déchirés. Voyez nos vêtements et nos sandales, tout usés par l'extrême longueur du chemin. On prit de leur provision sans avoir consulté l'Éternel. Josué fit la paix et conclut une alliance avec eux en leur garantissant la vie, et les princes de la communauté leur en firent le serment. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin encore une fois pour ta parole, Seigneur, que nous avons sous les yeux, que nous allons consulter, Seigneur, et nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, pour les effets bénéfiques qu'elle a dans nos vies, Seigneur, à tous les jours, en autant que nous la mettions en pratique, Seigneur, que nous y prêtions attention, Seigneur, et que nous la prenions pour vérité comme parole qui vient de toi. Seigneur, nous te prions de nous inspirer ce matin, Seigneur, et de nous diriger dans ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Lire Josué, c'est un peu comme voir un film de guerre. Nous sautons sur un certain nombre de champs de bataille, et ici nous sommes témoins de différentes stratégies employées par le commandant du Seigneur de l'Espoir. Nous l'avons rencontré au chapitre 5, et prenant cette réplique, « Il est le Fils de Dieu », cela nous dit que ce n'est pas une guerre ordinaire. Du commencement à la fin, nous sommes confrontés avec le surnaturel. À chaque étape, la présence de Dieu est vue Et nous pouvons presque dire qu'elle en est sentie. Josué et le peuple de Dieu sont conscientisés du fait que Dieu est avec eux durant tout le voyage, tout ce parcours. De deux grandes façons, Dieu se manifeste à Josué et à la nation. Il donne une représentation visible de lui-même par le moyen de l'Arche de l'Alliance. L'Arche était un témoin tangible que Dieu était avec eux. Et vous ne pouvez pas lire le livre de Josué et ne pas voir l'Arche de l'Alliance. Elle avait une omniprésence. Cette phrase même, « l'Arche de l'Alliance » est trouvée dans Josué quelque 30 fois. Et rappelez-vous, lorsque nous avons vu l'Arche de l'Alliance la première fois en profilé, c'était au chapitre 3, à la traversée du Jourdain. Il est très clair que Dieu veut que son peuple voie l'Arche. C'est pourquoi il y avait cette distance approximative de 1 kilomètre. Donc chacun pouvait la voir en avant d'eux, les rassurant que Dieu était présent. Encore, l'Arche était la manière de Dieu de dire « Je suis avec vous » et « Je ne vous quitterai jamais ni ne vous abandonnerai ». Alors que nous en venons au chapitre 9 et que nous regardons à ces 8 premiers chapitres, il est évident, n'est-ce pas, que Dieu a gardé sa promesse. Dieu les avait guidés, protégés à chaque étape du parcours. Mais il y a une autre manière dans laquelle Dieu fait connaître sa présence à Josué et à la nation. Et c'est par le moyen du livre de la loi. À tout le moins 10 fois, la loi de Dieu est mentionnée dans Josué. Nous pouvons retourner jusqu'au chapitre 1, et il est clair qu'il est donné au livre de la loi une place prédominante dans la vie de Josué. Rappelons-nous dans Josué 1, 8, où nous citons « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. » Dans Josué 8, la loi de Dieu modelait et formait, façonnait la nation. Nous y voyons dans Josué 8, 30 à 35. Il y avait un culte d'adoration et la loi de Dieu était écrite sur 2 grandes pierres peintes en blanc et y était proclamée du toit de la montagne. Dieu voulait que son peuple vive selon le livre de la loi. Il voulait que son peuple ne le perde pas de vue, ne l'oublie jamais. C'étaient les 2 moyens principaux qui servaient à cette fin, l'Arche de l'Alliance et le Livre de la Loi. Les 2 gardaient Dieu en avant et au centre. Pour récapituler quelque peu les chapitres en capsule, maintenant, ayant Dieu dans votre vie, sachant sa présence spéciale, sa proximité par l'Arche de l'Alliance et par le Livre de la Loi, ne fait pas nécessairement que la loi soit plus facile, n'est-ce pas? Et le livre de Josué a des difficultés, des épreuves, des tentations tissées que nous pouvons voir dans presque tous les chapitres. Nous sommes en quelque sorte préparés dès le début. Lorsque Dieu dit à Josué au chapitre 1, par 3 fois, de se fortifier et de prendre courage. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font en sorte que Josué soit apeuré. Beaucoup de choses qui peuvent le faire fuir. Il a besoin de courage. Nous nous rappellerons au chapitre 2 cette mission d'espionnage qui n'était pas sans éléments de danger. Il avait besoin de courage. La traversée du Jourdain, cela impliquait un grand risque. Encore là, il aurait besoin de courage. Dans Josué 5, cette circoncision de masse à cet endroit appelé Gilgal, dès qu'ils sont entrés en territoire ennemi, ils se sont circoncisés, ce qui les plaçait dans une situation quelque peu précaire. Ils avaient besoin de courage. Dans Josué 6, la conquête de Jéricho, encore là, ils avaient besoin de courage. Et ensuite, Josué 7, la défaite d'Aï, où ils ont vu 36 hommes tués un rappel qu'il peut y avoir des victimes le long du chemin. Josué 8, une autre bataille plus dangereuse, plus périlleuse, et cette fois, s'ils sont pour avoir du succès, ils doivent coordonner une embuscade. Encore là, ils avaient besoin de courage. Et lorsque nous en venons à Josué 9, il nous saute aux yeux que qu'il y a plus de dangers et une autre crise potentielle à l'horizon. Pour avoir un sens de ce qu'est le danger, pourquoi ils ont besoin de l'aide de Dieu et comment tout ceci est déployé, nous aborderons ceci, le chapitre 9, sous trois volets. Les Cananéens, une image de la rébellion. Les Gabonites, une image de la déception, de la tromperie. Les Israélites, une image de manquement, d'affaiblissement. Donc, le premier volet, les Cananéens, une image de la rébellion. Le chapitre 9 ouvre sur une note épeurante. C'est comme regarder dans la face d'un lion en colère qui rôde cherchant sa proie. Le lion en colère ici a 6 dents qui sont identifiées ici en termes d'office politique. Différents rois, au verset 1, nous lisons « Quand ils l'apprirent, tous les rois, ces nations en ce temps-là étaient gouvernées par des rois. » Vous vous rappellerez au chapitre 2, vous avez le roi de Jéricho. Le pays de Canaan consistait en cités avec leur propre roi. Ici, nous sommes introduits, non pas à un roi, mais à plusieurs rois. Tous les rois mentionnés ici vivent du côté ouest du Jourdain, dans trois endroits géographiques majeurs, tels que mentionnés ici au verset 1. De la montagne, ils viennent de la montagne de la Shephéla, qui est la plaine en quelque sorte, et de toute la côte de la mer. Il est clair que quelque chose de grand arrive ici, amenant tous ces rois, ces hommes ensemble à la même table. Il y a un consensus. Ces rois gouvernent différents groupes de gens, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, entre parenthèses les Gabonites, et les Yébousiens. Nous apprenons ici qu'il y a un manège politique d'arrière-plan, ce que nous appelons une coalition militante. Ils sont alignés, une fédération, et c'est quelque peu substantiel en termes de grandeur. Ils sont peut-être unis pour la première fois et ils font la guerre contre Josué et Israël. Pourquoi? Eh bien, ils ont entendu concernant Jéricho et Haï, ces deux cités, et comment elles ont été conquises et tous les peuples exterminés. Ils pensent probablement que nous sommes mieux de mettre en commun nos ressources et ainsi former un front commun uni. Une autre raison pourquoi ils auraient formé cette allégeance militaire, si vous retournez au chapitre 8, vous avez la proclamation de la loi de Dieu au mont Ébal et Garazim. Et là, dans la vallée, au cœur même du territoire ennemi, ils ont eu cette cérémonie de l'Alliance, ce profil, ce service d'adoration qui donne un profil à la loi mosaïque, où le commandement de Dieu, la loi de Dieu, était lu. Elle avait été inscrite sur deux grandes tables de pierre. Cette cérémonie de l'Alliance était quelque chose comme un peu de dire aux habitants de Canaan, on va mettre vos formalités impies de côté. En essence, ce qu'Israël disait, lorsqu'il en vient à l'éthique, à la moralité et comment ce pays de Canaan sera gouverné, c'est la loi de Dieu qui va nous diriger. C'est un peu comme si, mettons, un groupe imposant d'évangéliques, ici au Québec, se met en route vers le Parlement à Québec, puis qui se présente, puis qui disent, bon, à partir de maintenant, c'est la loi de Dieu qui va gérer, qui va gouverner. Toute la Constitution, vous mettez ça de côté, vous vous rendrez compte qu'il y aura une coalition, puis ça ne prendra pas de temps que il y aurait des contrefaçons. Vous voyez, il y a quelque chose ici, un sujet de rébellion contre Dieu et sa loi. Si on regarde le psaume 2, les versets 1 à 3, nous y lisons « Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Vous voyez, les hommes ne veulent pas être gouvernés par la sainte loi de Dieu. » Ainsi, c'est le premier cliché instantané, celui des Cananéens, de la rébellion et de la provocation. Ce qui nous amène à notre deuxième cliché, les Gabonites, une image de la déception, de la tromperie. Le deuxième cliché est une image de la déception, de la tromperie des Gabonites. La première était, pouvons-nous dire, une image d'un lion. Une action agressive militaire. Les rois sont unis ensemble pour la guerre et pendant que le lion rugit en arrière-plan, quelque chose prend place à l'avant-plan ici dans Josué 9. Une image d'un autre groupe nous donne un aperçu rapproché et nous décrit que ces gens étaient les habitants de Gabaon. En hébreu, le mot Gabaon, c'est « Gibéon ». Qui est actuellement El-Djid, E-L, trait d'union, D-J-I-B. C'est la ville de El-Djib contemporain, là, qui s'appelle Gibéon, Gabaon. Cette cité était à quelques 100 kilomètres au nord-ouest de Jérusalem. Ainsi, il ne demeurait pas si loin que cela. Et c'est significatif. Donc, différent des autres des Cananéens mentionnés au verset 1, ces Gabonites, ou Gabaonites, je ne sais pas comment qu'on lit ça, là, ne viennent pas brandissant l'épée. Mais pourquoi s'amènent-ils? Pourquoi viennent-ils à la porte d'Israël, ici à Gilgal, selon ce que nous lisons au verset 6? Eh bien, comme tous les autres en Canaan, les nouvelles étaient répandues de façon rapide. Le verset 3 nous dit « Les habitants de Gabaon apprirent aussi comment Josué avait traité Jéricho et Haï. » Les Gabonites savent que leurs jours sont comptés et au lieu de joindre leurs forces avec le reste des Cananéens et tirer l'épée, ils sont venus en brandissant le drapeau blanc et ont usé d'astuces de duplicité de ruse, comme on le voit au verset 4. Le fait de penser au mot ruse, astuce, quel animal nous vient à l'esprit? Probablement le renard, on parle de rusé comme un renard. Et le Seigneur, dans Luc 13, 32, parle de renard en parlant d'Hérode, quand il dit « Dites à ce renard, à Hérode. » Aussi, ce qui nous vient à l'esprit, un autre animal, c'est le serpent. N'est-ce pas ainsi que le diable est décrit et ce qu'il a fait dans la déception de nos premiers parents dans Genèse 3:1? Il nous est dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Rappelez-vous ce qu'il a employé pour les décevoir. Le diable leur a menti. Il leur a dit qu'en obéissant à Dieu, ils seront réellement plus avancés. Les choses seraient mieux, vous serez meilleurs, plus connaissants, plus puissants. Vous serez comme Dieu. Le diable utilise la ruse avec nous aussi. Ses stratégies, ses astuces de même sont en action constamment. Les Gabonites ont utilisé leur ruse. Et le mot hébreu pour ruse, en anglais, le mot, c'est difficile un peu à traduire, craftily et cunning, qui traduit le mot ruse et astuce et duplicité. C'est un mot neutre. Il peut être pris positivement en termes de prudence, Et les chrétiens devraient à l'occasion être prudents. Pourquoi? Pourquoi parce que nous devrions être rusés comme le serpent. Mais le même mot peut être utilisé négativement avec l'idée de trahison, perfidie, mensonge, déception et tromperie. Et les Gabonites sont allés dans ce sens. Pour commencer, ils se sont présentés sous une fausse représentation, au verset 4. Se prétendant des ambassadeurs en délégation, prétendant venir d'un pays lointain, c'est ce qui nous est dit au verset 6. Au verset 9, ils disent « d'un pays très lointain ». Et au verset 13, « l'extrême longueur du chemin ». Donc, mensonge, mensonge et mensonge. Ils ont fait un bon travail pour vendre leur salade, n'est-ce pas? Ils avaient tout ce qu'il fallait de tangible. Leur ADN était en évidence pour le prouver. Des preuves concrètes. Notez l'adjectif qu'ils ont utilisé et qui revient. Et c'est le mot, dans la version anglaise, la ESV, le mot utilisé pour ruse, c'est « worn out », qui veut dire « complètement usé ». Et dans la Bible du Semeur, la citation du verset 4, ça dit ceci. « Décidèrent de recourir à la ruse. Ils partirent déguisés et chargèrent leurs armes de sacs usés et d'autres à vin usés, troués et rapiécés. Ils chaussèrent de vieilles sandales raccommodées et endossèrent des vêtements en lambeaux. Ils prirent en guise de provision du pain dur et tout moisi. » Donc, ils avaient des sacs usés, des outres de vin usés, de vieilles sandales usées, de vieux vêtements usés. Lorsque vous avez des choses usées ainsi, vous vous en débarrassez, n'est-ce pas? Mais tout cela faisait partie de la mascarade, de la déception, de la tromperie. Il voulait convaincre qu'il venait de faire un long, long chemin au-delà des frontières du pays de Canaan, du pays promis. Mais pourquoi? Pourquoi ment-il? Pourquoi joue-t-il ce stratagème, cette mascarade? Pourquoi les Gabonites sont allés aussi loin pour convaincre les Israélites qu'il venait d'une contrée si lointaine? Cela semble quelque peu plutôt ridicule, grotesque. Ont-ils peur? Certainement qu'ils ont peur. Mais pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sont sur la liste de rétribution divine. Vous pouvez tourner dans Deutéronome 7, les versets 1 et 2. Deutéronome 7, versets 1 et 2, il nous est dit, « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait venir dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi les nations nombreuses, les Hittites, les Guergasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Yébousiens, sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battues, tu les voueras à l'interdit, tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. » C'est très clair, noir sur blanc. Des instructions simples. Aucune miséricorde. Destruction, les effacer de la carte. Et il est possible que les Gabonites savaient cela. Vous me dites, mais comment pouvaient-ils savoir cela? Ils n'avaient pas de Bible. Mais rappelez-vous encore Josué 8. Il y eut cette lecture de la loi publiquement, et cette portion de l'Écriture pourrait avoir été lue, et qu'il se trouvait qu'il y ait des espions cananéens écoutant cette proclamation publique. Cela est possible, c'est une chose qui est possible. Mais nous savons certainement qu'ils savaient ce qui était arrivé à Jéricho et à Haï. La destruction et l'extermination complète. Et ils font la relation. Ils font la connexion en français. Tôt ou tard, les Israélites vont être à la croisée des chemins. Ils vont nous détruire aussi comme ceux de Jéricho et d'Aï, à moins que nous ne fassions quelque chose et que nous le fassions vite. Et ainsi, ceci est leur stratégie. Et c'est une stratégie de mensonge, de déception. Il est clair ce qu'ils voulaient, le verset 7 nous le dit. Ils voulaient qu'Israël fasse une alliance avec eux, une alliance de paix. Et cela est arrivé, n'est-ce pas, comme nous le voyons au verset 15, « Josué fit la paix et conclut une alliance avec eux. » Notre premier point, un cliché de la rébellion des Cananéens. Le deuxième point, un cliché de déception de la tromperie des Canaanites, des Gabonites plutôt, ce qui nous amène à considérer le troisième point des Israélites, une image de grand manquement de faiblesse. Une erreur colossale. Le verset 15 nous dit que Josué fit la paix et conclut une alliance avec eux et de les laisser vivre dans la congrégation et que les princes de la communauté leur en firent le serment, ainsi une alliance fut signée. L'histoire des Gabonites a été crue. Ils ont joué la carte de la déception qui leur aurait valu la récompense d'un Oscar pour leur performance. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils vont vivre, ils ne mourront pas par la cruauté de l'épée, de la guerre. Une alliance de paix a été faite pour Josué et les hommes d'Israël. Quelle déception qui devait se lire sur leur visage. Ils étaient déçus, ils ont été trompés. Mais comment ont-ils pu être si naïfs? Ils connaissaient leur Bible, n'est-ce pas? Ne connaissaient-ils pas Deutéronome 7, qui leur a probablement été lu et qu'ils ont entendu quelques jours avant au mont Ébal et Garazim? Cela était encore frais à leur mémoire. Ils ne pouvaient pas plaider l'ignorance. Vous pourriez être tenté de les regarder et de dire à tout le moins, initialement, honte, honte à vous. Mais avant que nous ne fassions ce jugement, examinons tous les faits ici. Remarquons deux choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait qui était correct? Les Israélites ont fait quelque chose de correct ici. Ils n'ont pas seulement cru les Gabonites sans réfléchir, sans penser. Il est clair que Josué et ses hommes ont fait quelques réflexions sérieuses. Le verset 7 nous dit, « Mais les hommes d'Israël objectèrent à l'interlocuteur Évien. Peut-être habites-tu près de moi? » Vous voyez, ils ont posé la question, « Comment savons-nous que vous dites la vérité? Comment savons-nous que vous n'êtes pas un de nos voisins? » Ainsi, ils ont reconnu que ces gens pourraient les tromper par ruse. Ainsi, vous ne pouvez accuser Josué et les hommes d'une sorte de naïveté gratuite, de ne pas avoir pensé cette question. C'était bien sage, mais qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Au verset 14, on prit de leur provision. Dans la version anglaise, NIV, c'est mentionné des sample, le pronom des sample, S-A-M-P-L-E. Ça veut dire qu'ils ont pris des échantillons. Ils ont examiné leurs provisions. Peut-être ont-ils senti leur nourriture. Peut-être ont-ils vérifié la moisissure, ça sent la moisissure. Peut-être ont-ils goûté le vin, inspecté les outres. Lorsque vous arrivez à la frontière canadienne-américaine, si vous voyagez en auto, vous arrivez à la barrière et on va vous poser des questions. Et ça peut arriver qu'on dise « Apportez votre auto là-bas et on va examiner votre auto, fouille dans le coffre arrière. » Lorsque vous allez en avion, vous arrivez devant l'agent d'immigration et il vous pose la question « Combien de temps, qu'est-ce que vous êtes allé faire? Où est-ce que vous êtes allé? Combien de temps? » C'est pas le temps de dire « il faut enlever nos lunettes de soleil, puis il faut les regarder dans les yeux, puis pas hésiter. » S'il y a des hésitations, ça met la puce à l'oreille. Alors, il faut être clair, il faut être sincère et précis. Ils font leur job, en quelque sorte. Et il faut donner à Josué et aux hommes d'Israël, leur donner cela, qu'ils ont quand même posé des questions. Ils ont quand même eu quelques soupçons. Il y a quelque chose de positif ici. Ils ont eu quelques soupçons et ils ont fait quelques précautions. Ainsi, il y a quelques positifs, mais il y a aussi le négatif. Le verset 14b nous dit « Sans avoir consulté l'Éternel ». Dieu n'a pas été consulté. Ils n'ont pas prié. Ils ne se sont pas mis à genoux. Ils ont besoin de sagesse, de discernement, comme quelqu'un l'a cité. Ils avaient besoin de sagesse, bien qu'ils aient négligé la sagesse. Et même sous la loi mosaïque, il y avait une provision, une disposition. Le sacrificateur avait ce pectoral du jugement, dans Exode 28 et versets 29 et 30. L'Orin, l'Orim et le Toumim. C'était deux pierres, une blanche et une noire. Bien que personne ne sait exactement ce à quoi ces pierres étaient utilisées, mais apparemment, elles étaient utilisées par le sacrificateur lorsqu'il avait à porter d'importantes décisions. Mais vous ne les voyez pas ici demander au sacrificateur. Et nous savons qu'il y avait des sacrificateurs, n'est-ce pas? Rappelez-vous qu'ils ont marché autour de Jéricho. Mais ils n'ont pas consulté les sacrificateurs. Ils ne sont pas allés vers Dieu, ne se sont pas mis à genoux pour lui demander. Il n'est même pas considéré ici, il n'est même pas envisagé. Ils l'ont totalement ignoré. Ils ont totalement ignoré Dieu lorsqu'ils ont pris leur décision. Ils ont pris leur décision dans un vide théologique, pouvons-nous dire. Ainsi, ils sont clairement à blâmer. Il y a culpabilité ici. Et même une plus grande culpabilité que lorsque vous pensez à ce qui a pris place à Haï. Vous vous rappelez ce qui est arrivé avec un homme du nom de Achan. C'était le gars qui a joué le jeu de la déception, de la tromperie, et il savait que Dieu avait la capacité de voir toutes choses. Il savait que Dieu était omniscient, omniprésent, que Dieu savait qui était celui qui avait volé ses objets, ses vêtements, cet or et cet argent. Il avait vu l'omniscience de Dieu de très près dans cette affaire avec Achan, en parlant du peuple d'Israël. Et ils étaient coupables, et même davantage. Ils savaient que Dieu ne peut être trompé, mais eux l'ont été grandement. Ce sont donc les trois clichés verbales de Josué 9, la coalition et la rébellion des Cananéens, le mensonge et la déception des Gabaonites, le manque de discernement des Israélites. Quelles leçons pouvons-nous tirer, glaner de ces quelques clichés? Trois leçons que nous tirons de chacun des clichés. Le premier, les Cananéens, les rois de la terre. Pensons au psaume 2. Le psaume 2 nous donne la source au cœur de l'affaire. C'est un psaume de David, un psaume prophétique. Nous lisons, « Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. » C'est ce que nous voyons ici dans Josué 9. Les rois de la terre ont un problème avec Dieu, avec sa gouverne, avec sa loi, avec son peuple. Cela explique pourquoi ils forment cette croisade, cette coalition universelle. Il y a cette haine, cette indignité contre Dieu et son oint. Frères et sœurs, lorsque nous lisons le journal ou quelque autre média, n'oubliez pas cela. Il y a quelque chose d'autre qui se passe ici. C'est plus qu'un problème de parti politique. C'est plus que le premier ministre du Canada ou du président des États-Unis. Lorsque vous voyez ce qui se passe au Parlement, ou parmi l'élite d'Hollywood, ou dans les halls des académies, qu'est-ce qu'il y a derrière les coalitions et le front unifié qui cherche à détruire l'institution du mariage, le rôle distinctif de l'homme et de la femme, cherche à détruire ce que nous appelons le jour sabbatique d'adoration? Qu'est-ce qu'il y a derrière les alliances qui minent, ébranlent les familles, qui attaquent l'Église et minent la parole de Dieu? Eh bien, voici ce qu'il y a derrière tout cela. Il y a un cœur de rébellion. L'homme a un cœur d'inimitié envers Dieu. Et vous savez où il vient à sa plus laide, à sa plus vilaine expression? C'est à la croix. C'est ce que le psaume 2 prophétise lorsqu'ils, en parlant des rois, se liguent ensemble. Et ici, c'est une connotation au roi Hérode, à Pilate et à ceux qui étaient les gouverneurs parmi les Juifs. Ils ont formé une coalition, n'est-ce pas? Pourquoi? Eh bien, pour attaquer Dieu et son roi, Jésus-Christ. Josué 9 et le psaume 2 anticipent la croix. Ils sont rejoués encore et encore. Le monde est Dieu. Et il formera quelque action militante, agressive envers Dieu et son peuple, ce que nous appelons souvent la persécution. Deuxième leçon concernant les Gabonites et le mensonge et la déception. Nous apprenons ce qui distingue le royaume de ce monde et le royaume de Dieu. Il y a des citoyens qui appartiennent au monde et il y a les citoyens qui appartiennent au royaume de Dieu. Quelle est la différence entre les Cananéens et les Israéliens? Les Israélites, à ce point-ci, les Cananéens mentent et les Israélites disent la vérité, ils sont honnêtes. Les Cananéens ont dit des mensonges, c'est leur façon de vivre. Pensons à Rahab dans Josué 2. Nous pouvons avoir beaucoup d'arguments à savoir si c'était un mensonge, entre guillemets, juste ou pieux, ou peu importe la connotation qu'on peut lui donner en parlant de Rahab. Cependant, elle a menti. Et les Gabonites ont menti ici aussi bien. C'est une marque d'une société non régénérée ou une société qui n'a jamais été influencée par l'Évangile. Ou si elle l'a été, maintenant elle perd sa vertu morale. Et vous le voyez par le fait que les gens disent des mensonges. Nous vivons dans ce qui est appelé une ère post-vérité en Amérique. Personne ne dit plus la vérité. 86% des gens, enfants, admettent de mentir régulièrement à leurs parents. 75% admettent mentir régulièrement à leurs amis. 73% mentent régulièrement à un frère ou à une sœur. 73% à une épouse ou à un mari. Seulement 11% disent que le fait de mentir produit quelques sérieux sentiments de honte. 11% seulement. Le mensonge distingue les personnes non régénérées et le monde païen, le monde des Cananéens. Mais qu'est-ce qui fait distinguer le monde chrétien ou le royaume de Dieu, l'Église chrétienne, le foyer chrétien? Eh bien, cela devrait être ceci, frères et sœurs, nous disons la vérité, nous gardons notre parole. Et ici, il est intéressant de noter que Josué et les hommes d'Israël vont garder, vont respecter l'alliance, n'est-ce pas? Ils ont découvert plus tard qu'on leur avait menti. Mais ils ne sont pas revenus sur l'alliance. Ne sont pas sortis de l'alliance. Ils ont respecté l'alliance qui souligne encore qu'ils ont pris sérieusement à cœur tout l'aspect de la vérité, de garder sa parole. Lorsque nous entrons en alliance, alliance de mariage, alliance de l'Église, contrat d'affaires, achat d'une auto, un contrat d'achat, l'achat d'une maison, gardez-vous votre parole, même si cela vous en coûte. Quelle opportunité de montrer au monde que l'Évangile fait une différence. Éphésiens 4, 25, nous lisons, « C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » L'Église devrait être une communauté sincère, véridique. Les gens devraient être capables de vous faire confiance. Et une des choses pour lesquelles vous devriez être reconnu en tant que chrétien est que cette personne garde, respecte sa parole. Ils ont signé sur la ligne pointillée. Ils l'ont respectée. Ils sont entrés en alliance. Ils ont fait des vœux. Peu de personnes disent la vérité de nos jours. Puissions-nous faire partie de ce peu qui le font par la grâce de Dieu. Disons la vérité. Et troisième point, concernant troisième leçon sur le manquement des Israélites, il nous sert d'avertissement à nous tous. Ils ont été joués, trompés. On a usé de supercherie à leur égard. Josué et ses hommes ont été bernés, trompés par des apparences extérieures, de vieux vêtements, de vieilles chaussures, de vieilles outres de vin. C'était une histoire qui semblait très plausible. Mais est-ce que nous ne pouvons pas être déçus par les apparences? Qu'en est-il des ruses de la publicité à la télévision, dans tout ce que nous voyons? Combien de gens contractent des engagements financiers, des achats d'auto, de maisons, et que cela se termine par un gâchis, par un mess? Ce n'est pas qu'ils n'ont pas lu les petits caractères, les petites clauses, non pas du fait qu'ils n'ont pas posé les questions, mais parce qu'ils n'ont pas consulté l'Éternel. Combien de gens se sont mariés et ont été déçus par l'apparence, par ce jeune homme qui semblait si spirituel? Il lisait Spurgeon, il citait les Écritures, il parlait avec éloquence, mais il a rusé. Et je n'ai pas réalisé que j'étais trompé avant la lune de miel. Nous ne voulons pas blanchir les Gabonites pour leurs mensonges. Des Israélites étaient coupables. C'est ici la question posée. Combien compte la prière dans tout cela? Combien comptent les conseils que vous prenez, que vous devez prendre? La parole de Dieu dit que la sagesse est dans le grand nombre de conseillers. De quelle manière ou combien de temps prenez-vous pour chercher la face du Seigneur avant que vous ne vous engagiez dans un nouvel emploi? Achetiez une maison. Marier cette fille avec ce joli visage, ce gars avec cette personnalité charismatique, vous pouvez être trompé par les apparences. Cela peut bien paraître sur papier, mais vous pouvez être trompé. Il y a beaucoup de trompeurs, de menteurs qui peuvent faire de nous une proie facile si nous n'avons pas le Seigneur de notre côté. Voici la leçon, une leçon vitale lorsqu'il en vient à prendre des décisions dans la vie. De signer sur la ligne pointillée, de prendre un nouvel emploi, de quitter une église, de se marier. Est-ce que vous priez pour cela? Est-ce que vous cherchez le conseil de Dieu? Proverbe 3, 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Si on prend la parole de Dieu au sérieux, on va agir en conséquence. Il y a quelque chose que nous devons admirer concernant les Gabaonites. Ils étaient très déterminés, n'est-ce pas? Créatifs, énergiques. Ils voulaient préserver leur vie. Et ils sont venus vers Josué et les hommes d'Israël et ils ont plaidé. Entrez en alliance avec nous, nous voulons la paix. Les Gabonites ont été épargnés, n'est-ce pas? Ils sont entrés en alliance avec Dieu et son peuple et ils ont été épargnés. Voici le point. Si vous êtes un pécheur, vous pouvez être épargné en entrant en alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Vous pouvez être épargné, vous pouvez faire votre plaidoyer à Dieu. Ne soyez pas comme les Gabonites. Faites-le honnêtement, sincèrement. Faites-le avec le cœur. Dieu fait la paix avec moi. Je veux faire la paix avec toi. Et le seul moyen que je peux faire la paix avec toi est par son Fils. Le seul moyen par lequel je peux être réconcilié avec toi est par sa croix. Vous voyez comme les Gabonites, vous pouvez poursuivre Dieu pour la paix, n'est-ce pas? Ne pouvez-vous pas venir et dire, « Dieu, je veux faire la paix avec toi. » Si vous allez à Dieu sincèrement, honnêtement, et faites cet appel pressant, si vous vous accrochez au Sauveur, Dieu fera la paix avec vous. Romains 5, 1 nous dit, « Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta sainte parole, Seigneur, pour ta grâce continuelle, Seigneur, que tu nous offres, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, non seulement de lire ta parole, Seigneur, de la méditer, Seigneur, d'en saisir les principes de base essentiels pour notre vie. Seigneur, aide-nous, notre Dieu, à réfléchir avec l'esprit que tu nous as accordé, Seigneur. Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole est la vie, Seigneur. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.